Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Recenser la production cinématographique mondiale relève de l'impossible. Et pourtant, c'est l'objectif de certains cinéphiles convaincus. Avec nous aujourd'hui, l'un des cinéphiles français parmi les plus connus, l'historien Jean Tullard, qui partage sa plume entre Napoléon et le cinéma. Jean Tullard, bonjour.
Bonjour.
Alors, votre passion du cinéma nous réunit aujourd'hui à l'occasion de la parution du tome 4 du nouveau guide des films dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, sorti en mai 2010. La suite, en fait, d'une entreprise éditoriale commencée depuis 2005. Alors, qu'est-ce qui fait que vous acceptez ce genre de défi ?
Alors, effectivement, c'est un défi. Il s'agit de recenser, non pas toute la production cinématographique mondiale, ce serait impossible. Rien que la production de l'Inde ou de l'Égypte est colossale. Et d'ailleurs, nous ne la connaissons pas. Et je suis certain que les Indiens eux-mêmes ne la connaissent pas, même les historiens du cinéma indien, parce que c'est dans plusieurs dialectes. Donc, ils n'ont jamais tout vu. Il s'agit simplement de recenser, au fond, les films qui sont passés en France.
Voilà, c'est d'ici, quoi.
Les films qui sont passés soit à la cinémathèque, ou dans les ciné-clubs, soit dans les salles, soit à la télévision, puisque vous savez maintenant, le champ s'est élargi. Aujourd'hui, par exemple, vont passer sur les chaînes de télévision quelque chose comme d'au moins 200 ciné 250 films en France, je dis en France. Donc, il y a une demande encore plus forte de films et on ressurgit des films qui étaient sortis dans les années 30 mais que l'on avait complètement oubliés, qu'on n'avait pas revus. Et vous avez donc un champ, mais limité quand même, à ce qui est sorti en France ou inédit encore, mais qui a eu une importance malgré tout dans les pays d'origine.
Comment vous faites ce choix ?
Alors, le choix est fait avec des collaborateurs.
Vous êtes une vingtaine,
je
crois.
La prétention, c'est la suite du dictionnaire des réalisateurs que j'avais fait seul, du dictionnaire des acteurs que j'avais fait seul. Et j'ai eu tort d'ailleurs parce que la filmographie des acteurs est une chose épouvantable. Parce que les actrices vous racontent souvent n'importe quoi, quand ce ne serait d'abord que leur date de naissance. Et donc, quand vous les interviewez, elles prétendent avoir tourné dans des films. Je viens d'une actrice que je ne nommerai pas, qui prétendait qu'elle jouait dans le Testament d'Orphée de Cocteau, et donc je l'avais mis dans sa filmographie, et puis j'ai été très critiqué, elle n'avait pas joué. Donc pour les films, évidemment, je ne pourrais pas avoir tout vu, même si j'en vois beaucoup, et nous avons donc un répertoire de tout ce qui a compté passé à Paris, ou en province. Et dans ce choix peut figurer des films inattendus. Il faut quand même surprendre aussi, il faut que ça soit un instrument de travail, mais c'est un guide. Je vous rappelle, ce n'est pas un dictionnaire. Donc, ce guide doit surprendre. Par exemple, vous avez, et je l'ai vu, le film le plus court de l'histoire du cinéma.
Quel est-il ?
Alors, c'est un film, la rubrique Rire jaune, c'est un film d'un Suisse qui s'appelle Huppert. Ce film, quand je dis que je l'ai vu, il est passé à la Cinémathèque.
Il est passé qu'une fois.
On n'a à peine vu une image. Et le réalisateur s'est excusé parce qu'il nous a expliqué que nous n'avions vu qu'un extrait. Donc, vous voyez. Alors ça, c'est le film le plus court. Vous avez aussi, dans ce guide, le film le plus long, qui s'appelle Sleep, Sommeil, d'Andy Warhol, et qui est un film qui a été aussi passé à la Cinémathèque. C'est-à-dire que là, ce film filme le sommeil de quelqu'un qui se couche et qui s'endort et dort. Et pendant tout son sommeil, il est filmé par une caméra. Alors évidemment, d'ailleurs, on peut dire que c'est un film très soporifique, effectivement. Il est passé à la Cinémathèque vers minuit, c'est une séance de minuit, et s'est achevé vers 7h du matin, c'est-à-dire qu'il y a eu des fans qui se sont assis sur un fauteuil et ont vu... La caméra ne bouge pas, hein, donc la caméra, en plan fixe, quelqu'un dormir. Mais Bertrand Tavernier, qui était là, a protesté, car à un moment donné, dans son sommeil, le dormeur se retourne de côté et Tavernier a crié « concession ». Donc, vous voyez, ces films-là figurent, ce sont des curiosités, mais qui existent réellement. J'avais pensé à inventer un film qu'on aurait rajouté, mais je suis quand même un historien sérieux, donc il n'y a pas de faux films. Il n'y a pas, en revanche, les films perdus. On a des renseignements. Il y a des films qui ont, surtout du temps du muet, qui ont disparu. Par exemple, Charlie Chaplin avait confié à Sternberg le soin de tourner une version de Seagull, la mouette de Tchekhov. Le film a été tourné, mais il a été mis immédiatement sous le boisseau par Chaplin, pour des raisons que l'on ignore. Donc ce film existe probablement, mais personne, sauf Chaplin et Sternberg, qui le mettaient en scène, ne l'ont vu. Donc je ne peux pas le mettre, ce serait malhonnête.
Alors, parmi tous ces films, il y a pour chacun d'entre eux une petite fiche technique avec un résumé. C'est effectivement, vous avez dit quand même que c'était très sérieux, mais on reconnaît aussi votre style. Certaines fiches peuvent être très courtes, oui. Le ton de chacun est respecté. Et l'impression du moment, enfin de...
Alors, le guide se présente de la façon suivante, les trois volumes précédents et puis ce supplément, avec un index général qui permet de recenser les 20 000 films et un autre index qui donne les titres originaux.
Alors ça, c'est présent dans le dernier,
volume. C'est le dernier volume qui rassemble donc tous les titres. Donc, vous savez, vous avez une image de toute la production cinématographique importante par ordre alphabétique, titre français. Et donc, ça vous renvoie au volume,
aux trois
autres volumes, ou à celui-là.
Qui sont sans cesse réédités.
Oui.
Hein.
Alors donc, ça se présente de la façon suivante. Vous avez le titre du film et vous avez un générique. Un générique qui ne peut pas tout mettre. Mmh. Sinon, vous connaissez à l'heure actuelle, à cause des syndicats, les génériques des films américains. 10 minutes après, vous êtes toujours dans votre fauteuil à attendre que ça se termine. Il n'y a pas un balayeur de plateau, pas un éclairagiste qui a changé une ampoule qui ne figure dans le générique. Alors là, non, on ne met que le réalisateur, le scénariste, l'opérateur, la musique et le producteur, évidemment.
Le producteur et la durée.
Plus, à côté du titre, une étoile, deux étoiles ou trois étoiles. Ensuite, il y a un résumé de l'action et puis il y a un jugement critique. Alors évidemment, le résumé de l'action, c'est là où c'est le plus dangereux parce que vous arrivez quelquefois à ne plus très bien vous souvenir ou à mélanger l'action. Alors il y a des gens très habiles. Il y a l'un de mes collaborateurs, Alain Pocard, président du Club des Ronchons, qui a fait un certain nombre de westerns et il a fait la notice « Les Comanches passent à l'attaque ». Alors, je me suis l'avait-il vu, s'en souvenait-il plus? En tout cas, Les Comanches passent à l'attaque. Voilà, il y a le titre, Les Comanches passent à l'attaque. Résumé, Les Comanches passent à l'attaque. Et commentaire, Les Comanches passent à l'attaque et ils ont tort car ils essuient de lourdes pertes. Alors évidemment, nous nous sommes interrogés pour savoir s'il l'avait vraiment vu. Il prétendait qu'il l'avait vu. C'est un film quasi invisible. On a réussi, au prix d'efforts immenses, à en trouver une copie aux États-Unis, qu'on a fait venir à grands frais, une copie 16, et on l'a projetée devant lui. Et l'ennui, c'est que dans ce film, pendant une heure, pas de Comanche. Il y avait des colons qui s'enfoncent dans l'Ouest américain, mais pas le moindre Comanche. Et puis, tout à coup, alors là, il était mort, hein, l'auteur de la notice, à quelques minutes de la fin, paraissent enfin des Comanches, et effectivement, ils essuient de lourdes pertes. Donc, cette notice est d'une parfaite exactitude. De même, par exemple, vous avez la fille de Frankenstein, bon, c'est le générique, le résumé et le commentaire, la fille de Frankenstein, drame de l'enfance malheureuse. Alors, pourquoi ce ton un peu amusant, je l'espère? C'est pour bien faire comprendre qu'il s'agit de petits films. De films qui ne sont pas très importants. Il est évident que pour le 7e saut de Bergman, la notice
sera
beaucoup plus longue. Alors j'ai eu aussi un cas, car ces auteurs qui font les notices les font gracieusement. L'éditeur, mais ils choisissent. Ils choisissent donc des films qu'ils aiment. Ils ont envie de dire ce pourquoi ils aiment ce film. Alors il y en a eu un, malheureusement, il est mort, qui était un fou de Sharon Stone. Il avait vu tous les films de Sharon Stone et les notices consacrées aux films où joue Sharon Stone sont d'une bien plus grande longueur, évidemment, que Les Comanches passent à l'attaque. Et c'est assez long. Et je coupais parce que c'est déséquilibré. Alors je coupais, il allait voir la dame qui faisait la mise en page et en lui offrant une boîte de chocolat, il rallongeait la chose. Et alors il était arrivé parce qu'il était devenu fou. Mais il connaissait les films, il savait tout. Il les connaissait par cœur, plan par plan. Et alors, il y en avait un qui se terminait, j'ai heureusement coupé à temps. Stone, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, effectivement, c'est un peu excessif. Mais d'un autre côté, c'est cette...
Oui, mais c'est, on sent cette passion.
Cette passion a fait le charme du guide. Et des gens m'ont dit, oh, j'étais malade, eh bien, plutôt que de prendre un roman policier, plutôt que de prendre les œuvres complètes de Bergson, j'ai pris le guide des films et j'ai lu comme ça. Et j'ai vraiment passé plusieurs jours alité de façon très agréable à lire des notices. Et en même temps, il faut donner envie de voir le film, ou au contraire, on décourageait les... Car il y a des erratements terribles.
Alors, vous avez, on le sait, un goût pour les séries B, pour les films justement dont vous parliez un peu sans importance, pour les fameux nanars. Et je suis tombée sur Confession d'une accro du shopping. Alors, vous en avez fait la notice. Alors, c'est un film de 2008, américain. Bon, et pour donner juste un exemple, donc ça se finit par adaptation d'une série de best-sellers. Ce film est surtout destiné à un public féminin et qui n'est pas allergique aux grimaces d'Isla Fisher. Vous vous rappelez de ce film ?
Il est en DVD. Il est en DVD et chaque fois que je suis invité chez une dame...
Vous lui offrez ?
Je lui offre. Et donc c'est, comme elle est accro au shopping. Et alors là, c'est combien il faut savoir choisir, etc. C'est une personne qui devient folle et à force de faire du shopping.
Vous ne vous ennuyez jamais au cinéma, Jean Tula ?
Ben non, non. Enfin, quelquefois quand même. Donc vraiment, le film le plus ennuyé... et qui forme contraste avec le film qui marche le mieux aujourd'hui, le film le plus ennuyé, c'est Dialogue des Carmélites. Oh, ce que c'est ennuyeux! Alors qu'en revanche, vous voyez que sur le même thème, des hommes et des dieux qui triomphent, et qui malheureusement, là, n'est pas dans mon guide, puisque le guide est sorti avant, mais qui aura probablement dans une réédition 4 étoiles, là, vous ne vous ennuyez pas. Pourquoi? Parce que dans la conception du Dialogue des Carmélites, c'est franchement théâtral, languissant, tragique, etc., tandis que quand vous voyez, et voyez, ça c'est le regard du cinéphile, quand vous voyez des hommes et des dieux, cette communauté de 7 moines qui sont là, enfin ils sont un peu plus par moment, mais 7 moines forment la base, à côté d'un village, et avec des bandes terroristes qui viennent attaquer le village, c'est les 7 mercenaires de John Sturges. C'est conçu de la même façon, et les acteurs sont admirables. Et alors là, quand il y aura la notice, les 7, parce que je donne aussi les interprètes avec, entre parenthèses, le rôle qu'ils jouent. Eh bien là, vous aurez vraiment les 7 et 9 qui sont admirables et qui sont typés comme le sont les 7 mercenaires. Et dans les 7 mercenaires, il y a une musique extraordinaire. Et là, vous avez des chants religieux chantés par les interprètes eux-mêmes et qui donnent au film une dimension extraordinaire.
Comment évolue, selon vous, en ce moment, le cinéma là, est-ce qu'il y a un genre particulier qui l'emporte ou pas ?
Non, alors le cinéma américain, maintenant, manque totalement d'imagination, alors qu'il se taille, évidemment, la part du lion.
Dans que sur le plan films. Commercial.
Et par exemple, vous avez tous les westerns. Tous les westerns sortis en France sont, aujourd'hui, il n'y a plus de westerns. Tous les grands, je ne peux pas dire tous les films policiers, parce que le genre, le mot policier, c'est pas toujours, s'applique ou ne s'applique pas à certaines actions. Bon, ils figurent. Mais aujourd'hui, les Américains font Batman. Bon, pas mal, pas mal. Alors, suis Batman 2, puis Batman 3, puis Batman 4. Et regardez dans mes guides, vous avez des colonnes de Batman. On est arrivé à Batman 15, Batman 32, et bientôt, je n'aurai plus que des pages entières. On refait les films avec des numéros, et plus ou moins bien. Et donc, c'est insupportable.
Vous trouvez que la fiction américaine est décevante
et
ces
décevante,
dernières années ?
Oui, mais au fond, je pense que les Américains sont plus investis peut-être dans la télévision. Et là, je me trouve confronté à un problème. C'est la différence entre un téléfilm et un film. Jusqu'alors, la différence était nette. Si le film n'était pas sorti en salle et s'il était passé à la télévision, c'était un téléfilm. Aujourd'hui, vous avez en DVD, beaucoup de films ne sortent plus en salle. Ils sortent en DVD. Allez faire un tour dans les rayons de DVD. Moi, je vois des tas de films, mais ils ne sont jamais passés en salle. Donc, s'agit-il de téléfilm ? S'agit-il de film ? Souvent, ça peut être un téléfilm qui a été plus ou moins tripatouillé. Alors, on le sent, parce que quand ce ne serait que par la production, vous savez, il n'y a pas besoin d'être archéologue pour identifier un téléfilm d'un film sur un DVD. Bon, ça se devine, mais il y a des fois où on ne sait pas très bien.
Et vous pensez avoir une catégorie
alors,
pour ce genre de film,
il y avait, la question s'était posée pour moi, pour les réalisateurs et pour les acteurs, est-ce qu'il fallait mettre les téléfilms ? Et j'ai posé la question à certains réalisateurs, bah, tenez même Chabrol, qui ne souhaitait pas que les téléfilms soient recensés. Ces téléfilms soient recensés. Il en a fait pas mal, d'ailleurs. il ne souhaitait pas qu'il soit recensé dans le dictionnaire des réalisateurs. Et de même, je prends Brialy. Brialy, un jour, c'était une grosse tête, et je lui dis, est-ce que je suis embêté, est-ce que je dois mettre les apparitions à la télévision ? Non, 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 pas du tout. Donc, il n'y a pas, mais il y aurait la place. D'abord, pour un guide des téléfilms, et...
Alors voilà, un prochain guide.
Voilà, oui, ça, voilà je ne le ferai pas. Mais c'est plus difficile, évidemment, parce qu'il faut tout avoir vu. Mais il y a déjà des ouvrages qui sont consacrés aux séries télévisées. Il y a
beaucoup
d'ouvrages, car effectivement, il y a les séries télévisées. Moi, c'est uniquement le cinéma, ce qui a été tourné pour le cinéma et sorti en salle. Donc, téléfilm ou film, évidemment, pour moi, il y a une très grande différence. Il y a une révolution qui s'opère aujourd'hui pour le cinéphile, c'est, ça a été la révolution de la vidéocassette et maintenant du DVD. Et le film sorti en salle sort, c'était pendant un certain temps 6 mois, maintenant 3 mois, presque en même temps. Il y a des films qui sont sortis, mais Godard, le dernier, fait sortir en même temps en DVD et en salle. Bref, la vie du cinéphile qui fait un guide ou un dictionnaire, est énormément facilité. Parce qu'avant, il fallait aller voir le film en salle, prisonnier des horaires.
Mais ne le regrettez-vous pas, justement ?
Il fallait aller voir certains films aux États-Unis.
Ou de l'autre côté de la frontière. Oui,
en Angleterre, en Belgique, un peu partout. Il fallait les voir parce qu'on n'arrivait pas à les voir, où ils étaient sortis à la sauvette, on les avait ratés. Bref, c'était une vie atroce. Tandis que, avec le DVD, Vous l'avez raté, vous le voyez tout de suite, disons 3 mois après maintenant. Si bon, vous le ratez en DVD, il y a toujours un collectionneur qui l'a en DVD. Bref, et alors par Internet, vous arrivez une grande partie de la production cinématographique ancienne se récupère en DVD. C'est extraordinaire, mais c'est ainsi. Et en plus, pour les vérifications. Formidable. Dans la première édition du Guide des films, dans le tome 1, Alain Pocard avait fait Billy the Kid, la version King Vidor. Alain Pocard, c'est le comment je passe à l'attaque. Et à la fin, il dit, Pat Garrett, qui est le shérif, ne tue pas Billy the Kid. Ce qui est étonnant, puisque dans l'histoire réelle, puisque Billy the Kid a existé, Pat Garrett le tue, et que dans la plupart des versions, effectivement, il le tue, donnant une dimension tragique à la mort de cet adolescent féroce tueur, enfin, qui était quand même un adolescent. Elle dit, laisse partir, et on voit Billy the Kid, ça va. J'ai un doute. Si j'avais dû vérifier, il fallait que je demande à la Cinémathèque qui me retrouve la copie 35 de Billy the Kid, trouver une salle, le passer, et pour arriver à la fin, c'est-à-dire après 1h30, à voir si Billy the Kid n'était pas tué. Là, avec une vidéocassette, vous prenez la vidéocassette, vous la mettez à l'accéléré et vous voyez qu'effectivement, Wyatt Earp ne tue pas Billy the Kid. Problème historique résolu ainsi.
Est-ce que le fait de visionner des films seuls, enfin de les voir seuls ou de les voir avec les autres en salle, est-ce que ça modifie quand même la perception du spectateur ?
Oui.
Et est-ce que
oui.
Le cinéma s'adapte à ces nouvelles lois du marché ?
Si vous voulez, j'ai vu énormément de films à la Cinémathèque. Et je les ai vus dans des conditions épouvantables. C'est-à-dire, vous savez, il y avait des films, il n'y avait pas de sous-titres. Une fois, il y avait un film japonais sans sous-titres, mais c'était incompréhensible. Et la salle qui ne murmurait pas, c'était encore Rudulne. Il y a quand même des murmures. Alors Marie Mirson, qui était la grande prêtresse des lieux, fait rallumer les lumières. Elle se tourne vers le public et dit « bande de C, point de suspension ». Vous admirez bien la Vénus de Milo sans bras, vous devez admirer ce film sans sous-titres. Bon, ça, on n'a plus bougé. Il est évident qu'on voyait dans des conditions épouvantables, quand il n'y avait pas de sous-titres, il y a des comédies. Je ne suis pas très chaleureux sur les comédies américaines des années 30, qu'il s'agisse même de Lubitsch ou de Capra, parce qu'on les voyait en version non sous-titrée et qu'une grande partie des jeux de mots, des plaisanteries, vous passez. Maintenant, c'est fini, vous avez des sous-titres. Comme à l'opéra. Rappelez-vous, Wagner, au bout d'une demi-heure, on ne savait plus qui était qui, pourquoi il criait, etc. Tandis que maintenant, vous avez, au-dessus de la scène, vous avez des sous-titres qui vous aident à suivre l'action. Donc, je pense que les conditions de visionnage des films sont bien meilleures qu'elles n'étaient. Alors, il y a l'ambiance du public.
C'est un plus.
Car en plus, quand vous êtes dans une salle à la Cinémathèque où vous avez une comédie et vous n'avez rien compris à ce qu'il dit, et vous avez toujours un type dans la salle qui rit. Ah, le salaud, il a compris.
Depuis combien de temps fréquentez-vous la Cinémathèque ?
Oh, depuis, écoutez, j'ai découvert la Cinémathèque en 1952. J'ai connu toutes les salles depuis l'avenue de Messine. Pourquoi ai-je fait ça ? Eh bien, parce que, voyez comment détermine une vocation de cinéphile, j'étais bon élève. Et que, rappelez-vous, dans le manuel des classes terminales, il y avait une rubrique « cinéma ». Et dans le Lucien Genet, il citait Le Kid, Nosferatu le vampire, Buster Keaton, etc. Et la question se posait, où voir ces films, puisqu'ils faisaient partie. L'étoile, bon, on a dit citer La Liberté sur les barricades, mais qu'à aller au loup, mais là. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris le chemin de la Cinémathèque pour voir ces films, ceux que citait Lucien Genet dans son manuel, et qui était effectivement Nosferatu le vampire, passé à la Cinémathèque, Le Kid, etc. Je les ai vus là, j'ai commencé comme ça.
Vous fréquentez toujours la Cinémathèque ?
Toujours, mais moins maintenant, parce que évidemment, on finit par avoir vu tous les films, enfin tous les films qui passent, les grands classiques.
Quel est le prochain projet de cette aventure sur le cinéma ?
Alors ce sera, j'ai fait dans l'intervalle un dictionnaire amoureux, ce sera le dictionnaire des personnages et des événements, c'est-à-dire du cinéma. C'est-à-dire Zorro, pourquoi Zorro, qu'est-ce que Zorro, etc. Mais aussi D'Artagnan, pourquoi D'Artagnan,
vous allez
etc.
Vous régaler, là, et
mais aussi des personnages historiques, Napoléon, et en donnant chaque fois la liste des films où ils apparaissent et un commentaire. Ce sera une sorte d'index des personnages du cinéma.
Et vous allez le faire aussi toujours à l'échelle la plus globale qui
soit. À l'échelle la plus globale, il y aura aussi bien Aladdin que Jeanne d'Arc.
Voilà, merci. Prochain rendez-vous alors dans les salles et puis dans les guides publiés chez Robert Laffont. Le nouveau guide des films, le tome 4, qui complète le guide des films publié sous la direction de Jean Tullard aux éditions Robert Laffont, collection bouquins.